gentlemen, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, tu es bien au 102.2 sur RadioCanu.org et c'est bien la causerie qui démarre. Et ce soir, autour du studio, nous avons le petit cri de Jean-Yves.
Bonsoir.
Enfin, autour de la table plus que du studio. Et à la technique, c'est Clara.
Hello.
Fab.
Bonsoir.
Non, moi c'est Clara.
Non, mais...
voilà. Bon, alors avant de commencer cette émission et avant de vous dire où nous trouver, tout ça, on va quand même avoir une pensée pour tous ceux qui subissent aujourd'hui des guerres partout dans le monde et en particulier en Ukraine et qui malheureusement sont souvent des civils qui n'ont rien demandé et qui subissent les affres et les folies de quelques dirigeants mal embouchés. Voilà, donc on y pense et on vous invite à aller aux différents rassemblements de soutien, que ce soit pour l'Ukraine, le Soudan, le Donbass, enfin tout ce qui
existe,
le Tigré, voilà, allez, parce que ça a l'air de rien, mais montrer qu'on est là, c'est important. Voilà, et sinon, on va continuer quand même à vous dire que si vous voulez joindre l'émission, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez réécouter les émissions, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et que si vous avez envie de nous écrire, eh ben vous pouvez le faire, mais pas sur les commentaires, parce que les commentaires, eh ben ils marchent pas. Donc il faut faire un mail, voilà. Et sinon, tu nous retrouves là où tu nous cherches. C'est-à-dire que si tu tapes lacauseriecanu sur ton moteur de recherche, généralement, tu nous trouves, soit tu trouveras le blog, soit tu trouveras différents podcasts à droite à gauche que l'on laisse traîner par-ci par-là. Voilà. Et ce soir, on va démarrer avec Jean-Yves qui avait envie de nous faire une sortie façon Darmanin. À mort le séparatisme.
Effectivement, ce soir, j'avais envie de parler de séparatisme. Ou de communautarisme chrétien, c'est vous comme vous voulez, hein, évidemment.
Ah, c'était là qu'était la blague. Darmanin, séparatisme. Voilà,
oui.
C'était moi.
Bah, si tu sais pas où
je m'auto-bat dans mes lancements, ça craint. Quoi.
Alors, en effet, hein, depuis la mi-janvier, en fait, dans différents articles, tant de presse locale que nationale, on a pu lire qu'à l'île Bouchard, un petit village de 1500 habitants qui se trouve au sud de Tours et au nord de Poitiers, dans le département de l'Indre-et-Loire, si, pour situer un petit peu, eh bien, donc à l'île Bouchard allait se construire le Clos Saint-Gabriel.
Rien que le nom, il fait envie.
Alors, bah t'hésites en fait. Soit c'est un truc vraiment religieux, soit ça fait un peu Bézodrome, tu vois, qui se moque un peu.
Ça, ils savent pas les religions.
Mais ouais, je suis pas sûr.
Le Clos Saint-André. Attention, vous trouverez parfois des croix, mais c'est pas tout à fait les mêmes.
Alors, donc, le Clos Saint-Gabriel, je cite, une oasis chrétienne, comme le dit le promoteur immobilier, Monasphère, soit 17 pavillons et jardins d'ici à 2023, le tout pour accueillir des familles souhaitant, je cite encore, vivre fraternellement dans les valeurs de la foi. En gros, c'est donc un ghetto de cato.
Ouais, ou une enclave.
Oui, on voit comme on veut. Hein. Alors, à cela, on peut se poser évidemment, enfin, peut se poser, en tout cas, je me les pose, plusieurs questions. Déjà, c'est quoi en fait Monasphère? Alors, bah, pour le savoir, hein, facile, suffit d'aller sur leur site internet. Et on y lit donc que je cite, « Monasphère est la première entreprise qui conçoit et réalise des projets immobiliers partout en France, à proximité de lieux spirituels chrétiens en zone extra-urbaine. » On peut encore y lire, « Monasphère agit dans un esprit de communion avec les communautés monastiques, religieuses ou sacerdotales au service du bien commun avec les pouvoirs publics et les territoires. Notre ambition est de permettre le déploiement de 100 lieux de vie à taille humaine dans les 10 prochaines années. »
C'est assez important quand même, 100 lieux de ce type-là, parce que vu le nombre de pavillons, par 100, ça fait du monde.
Ah bah ça fait du monde, hein. Ça fait.
Ce sont des familles qui font beaucoup d'enfants.
Bah c'est-à-dire que souvent les familles religieuses s'arrêtent rarement à un enfant, bah hein, oui. Parce que bon, il faut toujours faire des petits.
Sauf Marie a priori.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est l'Immaculée Conception, d'ailleurs un bug, tu vois.
Non, donc ça se trouve, il a
ça a marché pour un quoi. Donc voilà, hein, le projet au moins est très clair en fait, hein, quand on lit le site donc de Monasphère. Alors. Si les cofondateurs premiers sont Damien Thomas et Charles Vatbled, ils ont ensuite été rejoints par Pierre-Édouard. Alors, Damien Thomas, hein, il a été secrétaire général plusieurs années au sanctuaire des Saint-Louis et Zélie Martin d'Alençon, dans l'Orne.
Non mais c'est un pseudo.
Non, c'est pas du tout un pseudo.
Il s'appelle vraiment comme ça ?
Oui, il s'appelle Damien Thomas.
D'accord.
Et voilà, hein, le monsieur est baigné déjà dans les trucs religieux, hein.
Oui, a priori, ça lui est pas tombé dessus du jour au lendemain.
Oui, oui, et puis c'est pas juste un petit croyant qui d'un coup, tu vois, non, il se dévoue pour la religion, voilà quoi. Donc, on a aussi donc un Charles Vatbled, qui lui était chef de chœur, chanteur et membre de l'ensemble Chantres de Paris, un bon serviteur de l'amour de Dieu, hein, et qui trouve, je cite, hein, que la grâce de Dieu opère dans la musique. Voilà, voilà.
Oui, mais alors ça, c'est marrant parce que c'est assez. Je fais une parenthèse, mais c'est un grand renouveau en fait dans le christianisme et notamment chez les catholiques. Mmh. C'est l'arrivée en fait de la musique comme vecteur. Alors on le voit, il y a le rock chrétien, la pop chrétienne. Il y a un de ses représentants qui a un grand succès qui s'appelle Vianney, hein, qui a fait énormément de titres de pop chrétienne. Même s'il dit oui, pas vraiment, je suis inspiré, mais bon. Enfin, quand vous lisez les paroles, il y a quand même pas 50 000 interprétations possibles. Et en fait, ça commence à devenir vraiment un vecteur d'un renouveau de la foi et d'une façon de passer. Donc, c'est pas étonnant que, passant de la musique, ils se disent « Ah, bah maintenant, on va passer un truc au-dessus. C'est on va carrément faire notre village gaulois de foi. Voilà. »
C'est ça. Donc, hein, je cite aussi les deux. Enfin, je cite, mais en tout cas, en les écoutant, oui, parce que je m'investis beaucoup pour cette émission. Je me suis tapé un quart d'heure d'interview de ces deux personnages. Et je peux vous dire que ça fait pas du bien. Alors, les deux parlent, hein, donc d'un appel de Dieu pour se lancer dans le business. Mais vraiment, ils parlent d'un appel de Dieu. Hein.
Ouais, en plus, comme c'est des promoteurs, j'imagine, tu sais, un appel un peu mafieux, genre, bon, allez, on a un terrain, les gars,
c'est là aussi, hein, attention, enfin, pour moi, là aussi, c'est très parlant.
Ouais.
C'est très parlant. C'est-à-dire que, ben, vous le savez, ici, on est dans une émission anticléricale, antithéiste. Pour autant, on sait qu'il y a des croyants. Mais dans les croyants, pareil, il y a différents degrés. Mais quand on vous parle d'appel de Dieu, de grâce de Dieu, dans la musique, etc. Enfin, c'est du vocabulaire très spécifique, en fait.
Oui,
les petits croyants qui prient chez eux, ils utiliseraient rarement ce genre de vocabulaire-là. Donc, faut quand même, là aussi, hein, s'en rappeler. Et alors, maintenant, j'ai envie quand même de vous parler de ce Pierre-Édouard, qui n'est autre que Pierre-Édouard Sterrin, le très catholique et libertarien, hein, il le dit lui-même, patron du site que vous connaissez certainement, La Fourchette.
Ben oui.
Ouais. Et c'est aussi le patron des célèbres Smartbox.
Ça doit être quelqu'un de très pauvre.
Oui, très pauvre. Bah, il est dans la piété, hein. C'est la foi. Ouais. Alors en 2012, hein, il faut quand même savoir qu'à l'arrivée de François Hollande.
Oui, quel rapport.
Eh ben, il a quitté la France pour aller en Belgique. Parce qu'il a eu peur, toi.
Il y avait des
François Hollande, non mais François Hollande, il a quand même dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Et là, le gars, il s'est dit oh, « J'ai peur, tu vois ».
Donc, je m'en aille.
Donc, il est parti en Belgique avec sa femme et ses 5 enfants. Oh, ben, tiens, on parlait de familles bien nombreuses chez les religieux, ben, c'est ça. Afin, évidemment, hein, d'échapper, il est parti en Belgique, afin d'échapper, évidemment, hein, aux impôts sur les plus-values. Bah ouais, parce que bon, c'est pas facile de peser des centaines de millions d'euros, quoi. C'est vraiment pas aisé. vous qui êtes de l'autre côté du poste, essayez de vous mettre dans la peau des riches, des très 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 riches. C'est pas facile, facile.
Et si vous pouvez, mettez-vous dans leur maison, dans leur voiture aussi.
C'est ça.
Mais ça, c'est notre problème.
Et quand même, je rajouterais quand même ce Pierre-Édouard Sterrin est aussi... Alors, il a été cité par Paris Match, qui avait fait une enquête sur Zemmour et son entourage. Eh bien, ce cher Pierre-Édouard Sterrin serait un soutien de Zemmour, en fait.
Oui, mais ça, c'est pas surprenant.
Mais non.
Enfin, je veux dire, on...
Mais derrière... aussi, hein, c'est... Oui, oui, mais oui, c'est...
Mais derrière, il y a un truc...
On ajoute les choses les unes aux autres, et d'un coup, on se rend compte que c'est... On n'est pas juste face à des petits croyants, quoi.
Non, et puis, en plus, enfin, je veux dire, Zemmour, c'est le candidat, quand même,
clairement,
de ceux qui rêvent d'une France régie par la religion.
Ah bah, clairement.
Il le cache pas, lui-même, hein, il estime... Voilà. Alors, c'est marrant, parce qu'il est même rejoint par des fondamentalistes religieux musulmans et des fondamentalistes religieux juifs, qui voient une espèce de porte de sortie possible de cette laïcité terriblement étouffante.
C'est ça, qui les maltraite, qui les malmène.
Voilà, et donc du coup c'est pas étonnant de se dire qu'effectivement ils peuvent être soutien, parce que dans leur logique de bah, je vais reprendre le mot qu'on disait en déconnant au départ, mais qui est un peu vrai, de séparatisme avec le reste de la société, c'est à créer une enclave entièrement chrétienne, où on est tous enfermés entre chrétiens, et où on ne vit que chrétiens, ne mange que chrétiens, et voilà. Il y a quand même dans le programme
de
proto-fasciste de Zemmour, il y a quand même quelque chose qu'ils peuvent effectivement trouver, c'est-à-dire la possibilité de vivre en paix dans leur religion, parce que c'est un peu ce que Zemmour prône, hein, quelque part, et qu'il dit ça vaut au-dessus, les valeurs morales prévalent sur les valeurs républicaines. Bah, les valeurs morales, quand quelqu'un vous dit ça, c'est, en général, c'est la religion.
C'est donc, ça. Voilà. C'est ça. Et alors, on peut se poser une autre question, hein, c'est pourquoi donc l'île Bouchard ? Parce que moi, avant ça, je n'en entendais jamais parler.
Moi non plus.
Mais c'est normal. Parce que, bande de mécréants que vous êtes, vous savez pas, mais ce village est un lieu exceptionnel. Que dis-je ? Béni des dieux. Alors, tenez-vous bien. Tenez-vous bien.
Je me tiens, vas-y, tu peux y aller.
Clara, en 1947, qui c'est qui n'est pas apparu là-bas ? La Sainte Vierge. Elle a fait un détour. Et donc, elle est apparue à quatre adolescentes, hein, dans l'église, devenue depuis 1990 un lieu de pèlerinage géré par la communauté de l'Emmanuel. Alors, juste quand même, ce qui est très drôle, c'est que donc, cette soi-disant apparition, hein, c'était en 47.
Oui.
Et c'est devenu un lieu, on va dire, de pèlerinage en 90.
Oh bah c'est toujours comme ça.
Donc c'est voilà, aussi intéressant de voir...
Ça relance le tourisme.
Oui, mais parce qu'en plus, j'ai vu des interviews. En fait, à l'époque, en fait, il y a même des interviews qui se trouvent à l'époque. En fait, il y a des gens qui disaient, ouais, bon, en fait, elles ont un peu fabulé, les quatre ados. Enfin, voilà, quoi.
Elles étaient un peu bourrées dans l'église. Vous,
et finalement, au bout de 53 ans, il y en a quand même qui se sont dit, tiens, attends, il y a un truc à faire là-bas. Et donc, c'est la communauté de l'Emmanuel. Communauté de l'Emmanuel, hein, qui est fer de lance, hein, du mouvement du renouveau charismatique.
Tout à fait, ouais.
Cette association religieuse, implantée dans le village depuis donc la fin des années 90, a vendu le terrain à Monasfer.
Bah ouais.
Mais non, mais ils se connaissent pas, hein, et c'est absolument pas un projet religieux.
C'est un hasard.
Faut arrêter. Ah, et donc, bah si, ça je vous l'ai déjà dit en fait, mais faut quand même se rappeler, hein, que si le clos Saint-Gabriel est la première, je cite encore, sphère chrétienne, l'agence immobilière, hein, veut en voir germer des centaines à travers le pays d'ici une décennie.
Ça va vraiment faire du monde, hein. Enfin, je le redis ce que je disais aussi.
Mais clairement.
C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que là, on est sur un projet de longue haleine, et sur un projet de, comme on peut en voir aux États-Unis,
oui,
en Pologne,
ça,
en Hongrie. Il y a plusieurs projets comme ça qui sont nés d'enclaves, vraiment, enfin de villages dans les villages, d'enfermement où les gens vivent vraiment entre eux et avec une notion de tri sélectif, mais pas écolo sur ce coup-là, mais de tri sélectif de qui peut vivre, qui ne peut pas vivre, même s'ils affirment que c'est pas vrai.
Tu vas trop loin.
Mais bien sûr, parce qu'il serait hors la loi.
Oui, il pourrait pas, bien évidemment.
Sauf qu'on sait bien que quand vous avez une communauté fermée et que tout le monde pratique la même religion, les mêmes rites, la même façon de vivre, et vous regarde de travers si vous n'êtes pas comme eux, s'il y a 99% des gens qui vous regardent de travers, vous finissez par partir. Donc c'est ça. Et en fait, cette façon en fait de faire, qui est tellement dénoncée soi-disant de façon très fantasmatique, hein, sur les fameuses soi-disant banlieues qui seraient islamisées, c'est les termes qu'on entend. Alors, faut vraiment jamais avoir mis les pieds dans une banlieue pour parler comme ça. Mais il y a un moment donné où là, en fait, on a un exemple concret de ce que serait vraiment un lieu christianisé, mais totalement à 100%.
C'est ça.
Quoi.
C'est ouais. ça. avec des gens qui sont volontaires pour le faire.
Oui, tout à fait.
Hein, qui ne donc, subissent pas une situation.
Donc, selon la Bible, des soldats de Dieu.
Bah, de toute façon,
c'est écrit. Hein.
Bah oui. Hein. Donc, un des oasis pour les familles pour qui il est de plus en plus difficile, de ce que j'ai cru entendre dans les interviews, de vivre dans les grandes villes. Hein, c'est pas facile. Mais, comme on vous le disait, ce n'est pas du communautarisme. Non, absolument pas. Mais je vois pas ce qui vous fait dire ça.
C'est du repli sur soi. C'est pas pareil.
C'est pas pareil, enfin. Alors, on peut se poser une autre question, hein, c'est quelles sont les réactions? Et bien là, évidemment, il y en a de toutes sortes. Alors, des soutiens, évidemment, hein, au niveau du pouvoir local, qui se dit que tout cela aidera au village à ne pas refermer une classe, ou voire en réouvrir une, parce que 17 familles où il y a 3 ou 4 ou 5 gamins, ça fait au moins 3-4 classes.
Hein. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils laissent très longtemps leurs enfants dans l'école publique non plus.
Enfin, ah, ça, voilà. Tiens, c'est autre chose peut-être.
Je ne suis pas sûr, hein, franchement.
Et alors évidemment, le pouvoir local, on voit aussi un truc qui pourrait redynamiser le village, l'économie du village, etc., etc. Mais le pouvoir local précise bien qu'il sera vigilant à ce qu'il n'y ait pas de communautarisme. Alors comment ils vont le démontrer tout ça, on ne sait pas. Mais,
non, mais ils seront vigilants.
Oui, c'est ça, ils seront vigilants. Et du côté de Darmanin, pareil, ils sont vigilants.
Il est vigilant aussi.
Oui. Bah, dis-lui juste qu'il y a des familles musulmanes, là, il va être très, 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 très vigilant. Là, des cathos,
C'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'en fait, ce que tu soulignes, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne demandent rien de très spécifique, à part vivre correctement, et qu'on traite de séparatistes à longueur de temps parce qu'ils n'ont pas la même religion qu'une minorité de gens, parce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en France, les catholiques sont minoritaires, le rappelle, hein, au même titre que les musulmans et les juifs. Donc en fait, on les monte du doigt en disant « Bah oui, mais ces gens, mais en fait, là, on a un exemple concret, avec du concret qui est fait, c'est-à-dire un terrain acheté, une promotion qui est faite autour du fait de vivre dans une enclave chrétienne, il y a un moment donné, ils attendent quoi ?
Qu'en fait, c'est pas leur problème, mais comme Zemmour, c'est-à-dire qu'il adore vilipender les musulmans, l'islam, machin,
oui,
etc.
Oui, tout à fait. Non,
sauf qu'en même temps, c'est un suceur de cierge. Donc à un moment donné, t'es pas dans un rapport à la laïcité ou quelque chose ou une approche anticléricale. Non, en fait, tu es dans une approche pro-religieuse, mais la tienne, et donc dans une approche de guerre de religion.
Oui, clairement.
Il faut absolument pas se mentir. Mais c'est comme quand Marine Le Pen parle de laïcité, alors que, je veux dire, elle a plein de cathotradis dans ses entourages. Donc non, en fait, c'est pas de la laïcité dont ces gens parlent. C'est de la guerre de religion dont ils ont envie.
Mais moi, là, je me plaçais plus du côté de... Enfin, du côté... Plutôt du point de vue de Darmanin.
Ah, mais du côté. Mais je pense que Darmanin est un peu dans la même approche, je pense,
d'accord,
que Zemmour.
Oui, c'est probable.
C'est-à-dire qu'ils aiment bien certaines religions, mais pas les autres. Enfin, surtout une religion. Alors, forcément, il y a aussi eu le soutien de plein de familles cathos. Oui, c'est sûr. Si on peut se retrouver entre nous, c'est tellement formidable. Ainsi que de la part de tous les réseaux cathos, hein, et plus, si affinité. Alors, ça va des évêques, aux fraternités sacerdotales, etc., etc. Dont des personnalités issues de sphères catholiques ultra conservatrice, comme par exemple hein, Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, un proche de Marion Maréchal Le Pen. Ah non, faut plus dire Le Pen. Mais tu me diras, Maréchal, ça fait déjà assez peur.
C'est Marion Maréchal, nous voilà maintenant.
C'est ça, Marion Maréchal, nous voilà donc. Et qui fut aussi hein, une invitée des universités d'été catholiques en 2015. Et ce cher évêque Dominique Ray organisait notamment des camps de soutien à la masculinité.
Ah oui.
Ouais, je pense qu'il fallait porter des chemises à carreaux, des trucs comme ça, hein, et des bonhommes quoi. Et couper du bois peut-être, on sait pas.
Et se faire des câlins virils.
Et se faire des câlins virils.
Non, ça c'était dans mes rêves, c'est autre chose.
Non, ça c'est dans les trucs de... Comment ça s'appelle?
Ah oui, de conversion.
De conversion, ouais. Mais c'est la même chose. Hein,
t'façon, c'était une mauvaise blague.
Non, mais de toute façon, c'est la même chose. Hein, c'est absolument la même chose, construction d'une masculinité... on ne sait pas ce que c'est. Enfin bref. Et ce qui est aussi intéressant, hein, c'est que dans la librairie catholique qui jouxte l'église Saint-Gilles à Lille-Bouchard, donc ce grand lieu de pèlerinage, un seul livre profane est d'ailleurs en vitrine. Lequel ? Attention, roulement de tambour.
Le dernier livre de Zemmour.
Magnifique, tu as tout compris. C'est La France n'a pas dit son dernier mot. Du candidat d'extrême droite, donc Éric Zemmour.
J'ai gagné un siège dédicacé.
C'est ça. Mais n'y voyez vraiment aucun aucun truc de religion, voyez, aucun projet religieux.
On voit que ce sont des gens d'extrême droite,
mais bien sûr,
catholiques d'extrême droite, comme oui. Voilà, traditionnalistes.
Oui.
Il faut arrêter de tourner autour du pot.
C'est
voilà, ça porte un nom. Hein.
C'est ça. Et d'ailleurs, hein, quand on parle de soutien et tout ça, sur le site de Monasphère, c'est rigolo, dans la section, ils en ont parlé. Ils ont parlé de nous, tu vois, genre, eh ben évidemment, hein, on peut voir RCF. Évidemment, Radio Chrétienne de France, ou encore Radio Notre-Dame, ou encore Famille Chrétienne, ou La Croix, mais aussi Valeurs Actuelles. Ah. Non, vraiment, là, je pense qu'il y a tout un projet qui se dessine et c'est formidable.
Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas encore Hanouna et Bolloré.
Ça va venir.
Oui, je pense que ça va
venir. Ça va venir. On va savoir si Bolloré n'a pas des actions dans un des quatre trucs
oh,
que j'ai
cités. C'est fort probable.
Enfin, bref. Alors, quand on parle des réactions, donc on a fait les soutiens, mais il y a aussi eu des oppositions. Enfin, il y a des oppositions, évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, quand même. Donc, certains et certaines hein, rappellent quand même que la communauté, justement, Emmanuel qui gère l'Église, hein, avec messe en latin tous les mois, ce qui n'est pas, là encore une fois, anodin.
Et on peut rappeler quand même que l'Église catholique sous Jean-Paul II avait banni les messes en latin, et c'est le Benoît XVI, puis comment il s'appelle là, le premier là, François,
ouais.
François Ier, qui ont réhabilité le fait de pouvoir en faire. Et donc on voit bien que même au sein de l'Église en elle-même, l'Église catholique en elle-même, il y a un retour du charismatique, il y a un retour en fait du religieux. On m'a dit hardcore.
Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, je pense que leurs églises se vident, donc c'est comme toujours, il faut qu'ils rassemblent le plus de brebis. Et donc, quitte à prendre les brebis les plus intégristes, ils vont prendre les brebis les plus intégristes. Et donc, hein, évidemment, la communauté a aussi placé ses pions hein, au niveau de l'archevêché de la région et est en lien direct avec Rome. Et donc, étant de droit pontifical, elle fait absolument ou presque ce qu'elle veut dans les paroisses du coin. Alors. Genre, hein, je vais quand même vous donner 2-3 exemples, juste pour qu'on situe bien, si vous n'aviez toujours pas situé. Refuser un concerto de Mozart. Ouais, c'était un franc-maçon, hein, Mozart, quand même.
Ils en sont encore là.
Ah bah, attends, je veux dire, ils sont quand même en train de prêcher le retour d'un gars qui n'a jamais existé, donc je veux dire, oui, ils en sont encore là.
Non, mais le coup de Mozart franc-maçon.
Ouais, enfin, on.
Ce qui est vrai, en plus.
J'en ris, mais c'est. Oui, Mozart était franc-maçon dans les dernières années de sa vie. Ou encore, hein, du porte-à-porte pour inciter les parents à mettre leur enfant à l'école privée, évidemment.
Mais c'est là que le maire.
Donc c'est là que c'est rigolo, mais voilà. Oui. Le pouvoir politique local se dit, bah tiens, ça va nous permettre d'ouvrir des classes, mais non, en fait. Ils vont foutre leurs gosses en privé.
C'est qu'on va avoir là un transfert vers le privé, comme ça se fait dans plein d'endroits, où on va dire on a gardé des classes et où finalement la mairie va financer le privé parce qu'il y a les fameuses lois qui obligent au financement de l'éducation des enfants. Mais au final, ces enfants, ils vont être dans des écoles qui seront proches de traditionnalistes et avec toutes les conséquences que ça aura derrière.
C'est ça. Alors évidemment, donc je vous ai parlé de ces écoles privées, mais il y a aussi, c'est formidable, des cours d'auto-école où on apprenait aussi à prier, parce que c'est important.
Avant de prendre un virage ?
En tout cas, on apprenait à prier. Et aussi,
prendre le bon aussi.
Ouais, c'est ça. c'est énorme.
Ou aussi des cours de rattrapage scolaire, où la prière, en fait, aidait à préparer le bac. Oui, c'est important. Hein. Non, mais enfin, on parle pas de petits croyants là. Hein.
Non,
c'est,
oui.
Encore une fois, hein, vraiment, c'est, moi, je trouve ça hallucinant en fait.
Tu es en train d'imaginer une prière qui t'aide à préparer le bac, je trouve ça étrange. Mais, ouais.
Mais si, la foi de Dieu, Dieu t'aide à tout en fait. Mmh. Regarde, il permet même des gens de violer des gamins et il dit rien. T'as vu ? Donc vraiment, Dieu, il est puissant, faut l'avoir dans ta poche quoi. Donc évidemment, hein, Damien Thomas, un des fondateurs là, de Monasphère, est monté au créneau hein, dans Le Figaro et La Croix, affirmant que son projet était dénaturé. Je le cite. Il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Le communautarisme est très connoté. Bah alors, il est peut-être très connoté, mais je veux dire, ce que
mais
tu fais,
ce
gars,
font, oui.
C'est du communautarisme. Alors, si ça ne te plaît pas, ça peut ne te pas plaire, mais c'est un fait.
Mais en fait, il faudrait rappeler la différence entre communautaire et communautarisme. Mmh. C'est-à-dire que le communautaire, c'est des moments où vous pouvez vous regrouper entre personnes qui pensaient la même chose, avaient la même sexualité, le même genre ou des choses comme ça. Ça, c'est communautaire et ça n'est pas du tout votre mode de vie. Le communautarisme, c'est le moment où vous n'êtes qu'entre personnes qui se ressemblent.
C'est
ce qu'ils font, c'est du communautarisme, clairement.
C'est ça. Et je continue de le citer, hein, ce n'est pas, contrairement à ce qui a été avancé dans certains médias, un lieu réservé aux chrétiens. Nous ne sommes pas dans une démarche de réaction.
Mais ils ne pouvaient pas les réserver légalement. Donc voilà.
Mais en même temps, on peut être dans une démarche de conquête et ça change rien en fait, mec. Oui. Hein, tu sais.
Voire de reconquête, vu qu'ils aiment bien Zemmour.
C'est exactement ça.
Que j'en dis, moi.
Et il compare hein, évidemment au passage sa démarche à celle de Hameau éco-responsable. Ils sont malins, hein.
On peut faire ça là, fallait l'oser.
Ah, mais.
Ils sont bons.
Crois-moi, les plus intégristes, ils sont prêts à peu près à tout, en fait.
Non, mais ils sont très bons. Entre comparer un mode de vie, genre je vais avoir un composteur, un machin et tout, et le fait d'avoir des lignes directrices de vie, foie, machin, compagnie. Enfin, ils sont mal.
Bah, en même temps, ça dépend les éco-trucs. Hein, ouais, parce que si c'est pour mettre de la poudre de je sais pas quoi dans une corne de buffle à la pleine lune, on est dans le même registre que la foi religieuse.
Mais hein. tous les hameaux éco-responsables ne sont pas comme ça, heureusement. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est quand même balèze de prendre ce truc-là. Quoi,
évidemment, moi, je ne doute jamais de mes ennemis, de leur intelligence. Alors, évidemment, hein, tout cela ravira Zemmour et son amour du passé fantasmé de sa chère France chrétienne. Ouais. Ou encore, hein, ça, en tout cas, ça laissera aussi de marbre, certainement, une certaine partie de la gauche ou de l'extrême gauche qui n'y voit jamais de problème avec les religions et les croyants et les croyantes. Pas de problème, tout va bien. Et là encore, en fait, moi je trouve que ça démontre une méconnaissance des religions et des courants en fait, qui les traversent. C'est un simplisme, en fait, tout ça. Comme si un croyant catholique était de la même trempe qu'un croyant de Saint-Nicolas du Chardonnay. Comme si un juif, un musulman laïque, était de la même trempe que les orthodoxes de leur religion. Ben non, en fait. Enfin, et pour preuve, en fait, il y a même certains et certaines chrétiens et chrétiennes qui dénoncent là le projet dont je vous parle, pour qui, en fait, la religion est strictement privée et perso, et qu'elle ne doit pas se placer au-dessus de tout ce qui régit la vie de la communauté, c'est-à-dire qu'on soit croyant ou non, en fait, il y a des règles qui régissent un peu nos vies collectives, et en fait, eux, ils disent, bah non, en fait, le religieux, il doit pas interférer là-dedans, en fait, quoi. Donc là, encore une fois, c'est pas tous les croyants. Là, on est vraiment dans des courants spécifiques, etc.,
oui,
etc.
Oui, des courants qui ont des moyens.
Ah, mais ça, c'est
sûr. Il faudrait pas oublier non plus que souvent, les plus intégristes, quelle que soit la religion, ont souvent beaucoup d'argent et de moyens.
Bah, pour preuve, le gars de la fourchette et des smartbox, crois-moi, qui pèse des centaines de millions d'euros. Hein. Donc, bref, alors, évidemment, hein. En tant qu'antithéiste, quand je fais toutes ces différences entre croyants, laïcs, orthodoxes, etc., en tant qu'antithéiste, Dieu et la croyance en lui, en eux, restent une aberration. Pour autant, je ne peux pas non plus nier les différents courants dans les religions. Parce que sinon, on se plante, en fait, dire tous les croyants sont pareils. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a même des guerres au sein de l'intérieur aux religions, parce que c'est des guerres de courants, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est...
Bah, entre les sunnites et les chiites.
Mais oui, c'est ça que j'étais en train de me dire. C'est un des plus flagrants, c'est... Oui.
Oui, ou entre les catholiques et les protestants au nord de l'Irlande. Entre, voilà, il y a eu, on sait bien que ça existe. Au sein de la même grande entité.
C'est ça. Et donc ça, il faudrait vraiment s'en rappeler. Bref, les religions, et là, spécifiquement la chrétienne, reprennent du poil de la bête, pardon, et ne pas y prêter attention ou s'en moquer ou le balayer du revers de la main serait, selon moi, bien trop facile, bien trop lâche, en fait. Le retour du conservatisme se rebiffe, à nous de nous y opposer, de construire une société libérée de tout ça, en fait. Parce que si croire peut être une affaire strictement perso, et là, je veux dire, on n'est pas des inquisiteurs, on n'a pas à vérifier ce qui se passe dans le cerveau des gens, on est là face quand même à une approche politique de la religion, et là, on n'est carrément pas dans quelque chose de sympa, ni de progressiste, ni de quoi que ce soit, en fait. On est face à quelque chose de vraiment pas positif, je pense, pour tous ceux qui se pensent à minima progressiste, et encore plus si t'es révolutionnaire. Crois-moi que le jour où les religions auront le pouvoir dans n'importe quel endroit, bah tu pourras te faire dessus parce qu'ils vont pas te laisser tranquille.
Moi, je pense aux gamins, surtout.
Oui, ah mais...
Je me dis les pauvres. Quoi.
Ah mais oui, quand on sait déjà les retours qu'on a pu avoir de gamins qui ont été forcés de participer à des manifs pour tous, alors que bah, eux-mêmes étaient lesbiennes ou bi ou homo ou trans, bah là, je veux dire, c'est un enfermement absolument horrible dont vous ne sortez plus, parce qu'en plus, ce sont des ghettos, et c'est ça leur problématique, en plus des écoles privé, donc tu ne sors jamais, en fait. Et on se construit aussi par le fait de rencontrer des gens qui sont pas comme nous, en fait.
Ouais, bah
là, ça n'arrivera plus. Dans les ghettos comme ça, religieux, etc., ça n'arrive plus, en fait. Et c'est un vrai problème. Mais même ça, t'as raison, en fait. C'est un problème, déjà, en fait, que les adultes fassent ça, mais allez-y, lobotomisez-vous autant que vous voulez, je m'en fous.
Moi, je pense vraiment aux
enfants. Mais les gosses, quoi, en fait. Mais c'est toujours pareil, hein. On va te dire, oui, mais la religion, c'est pas grave. Ben, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on laisse les gamins tranquilles et peut-être qu'on se dise, tiens, allez, à 18 ans, il choisira une religion ou elle choisira une religion. Mais sauf que si on fait ça, on sait bien qu'il y aura beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de croyants. Parce que justement, ça sert à ça d'enrôler les enfants dans toutes ces sectes. Enfin bref, pardon. Voilà. Et je rappelle, la différence entre une secte et une religion, ce n'est qu'une reconnaissance étatique. Le reste, c'est la même. Voilà. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter ?
De la musique, peut-être.
Allez, alors partons en musique. Toujours à l'écoute de Radio Canu et de la Causerie, comme tous les dimanches de 22 à 23h. Et on vient de s'écouter une toute nouvelle nouveauté. Eh bien, c'était le premier extrait du tout prochain album de Lissom avec le titre Your Name. Et voilà, j'ai hâte d'entendre la suite de l'album parce que je suis fan. Et donc voilà. Et un petit coucou à Julien.
Voilà. Bah voilà.
Private coucou. Voilà, et ça c'est fait. Donc, c'est Fab qui prend la suite. Et toi, tu vas nous causer d'un petit livre.
Oui, je vais vous parler d'un petit livre. Alors, d'abord, je vais m'excuser, mais je vais d'abord vous parler de moi. Bah oui, ça arrive rarement, mais voilà.
Le mec, il a un melon.
Voilà, c'est ouais. Ça. Alors, parce que figurez-vous que depuis quelque temps, je suis assez intéressé et parfois dépassé par les débats qui entourent les notions de woke, cancel culture et autres joyeusetés qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux commerciaux, un peu dans certains médias et pas mal dans les micro-milieux militants rabougris. Voilà. Donc je fais partie, le micro-milieu militant rabougri, je ne fais pas un jugement, je fais un constat. Donc j'oscille entre compréhension et incompréhension, et parfois, que ce soit sur les modes de lutte, sur les choix de regroupement, sur les revendications portées, sur les méthodes employées. Et franchement, en fait, je retrouve parfois une division des choses qui me rappelle celle des années 90, où un camp montre du doigt l'autre entre membres finalement de la même sphère militante, et où les réactionnaires et autres forces de droite, semblent se vautrer dans la caricature pour mieux alimenter leur discours, faute de plus d'idées. Voilà. Je crois que je me suis, par exemple, interrogé sur les prises de position vis-à-vis d'autrices et d'auteurs, sur cette notion que pouvait être la cancel culture, j'y reviendrai plus tard sur cette notion d'où ça sort, et en quoi elle avait des contours qui pouvaient largement parfois me déranger, comme par exemple l'idée de censurer au nom du bien. Par exemple, ça c'est des choses qui personnellement m'ont dérangé ou me dérangent. Mais en fait, en cherchant, j'ai pu découvrir une chose. Le mot cancel culture, en fait, est une construction de l'extrême droite, en particulier du camp trumpiste, aux États-Unis, et ce mot est devenu en fait une espèce de mode, et c'est donc bien plus une sorte d'infiltration dans la pensée générale d'une locution d'extrême droite qu'autre chose, en fait. Un peu comme le terme de migrant qui a remplacé doucement réfugié. Ouais, c'est un peu le même glissement qui s'est produit. J'en étais donc à ces réflexions, on dirait un titre des années 80, et recherche quand, par un hasard total, j'entends parler dans une émission d'un livre de Laure Murat, qui annule quoi, c'est le titre du livre, et il est en fait présenté comme un essai court qui tente de recadrer un peu tout ce débat. Bon, et ben, je me suis dit, allons-y, je vais le lire, ça je sortirai peut-être moins bête, et ça tombe bien, je suis sorti moins bête, donc c'est plutôt cool. Et peut-être d'ailleurs je vais mieux comprendre cela, et je vous le dis tout de suite, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre tout ça, donc voilà. Donc d'abord, qui est Laure Murat, parce que c'est important de savoir qui nous parle quand on lit un livre. Donc l'autrice, c'est une historienne et écrivaine française. Elle est née en 1967 et elle a obtenu son doctorat en histoire en 2006. Ses champs d'études de prédilection sont l'histoire de la culture, l'histoire de la psychiatrie et les gender studies, les études de genre, comme on dit en français. Un de ses ouvrages avait d'ailleurs porté un regard nouveau sur la notion de psychiatrie, et il s'agit du livre « L'homme qui se prenait pour Napoléon », pour une histoire politique de la folie. Et en fait, en 2006... Elle sort aussi un livre autour de la notion de genre et de la construction politique et juridique qui entoure tout cela, Ramenons sur le devant de la pensée le fait que non seulement le genre n'a pas grand-chose à voir avec le sexe physique, mais qu'en plus, il faut impérativement repenser notre rapport au genre pour oser imaginer un changement de société et de rapport entre les humains. Voilà. Donc le livre en question s'intitule « La loi du genre, une histoire culturelle du troisième sexe ». Donc c'est intéressant parce que c'est une autrice qui s'est toujours attaquée et qui a toujours essayé d'attaquer des pans de la philosophie ou de la, du juridique ou de la sociologie qui sont des pans dits « touchy » comme on dit aujourd'hui, mais qui, voilà, qu'on n'a pas forcément envie d'affronter frontalement, et en fait elle a osé affronter frontalement, ça fait un double front. Voilà. Et le livre, alors son essai il est assez court, il fait une quarantaine de pages et s'intitule Qui annule quoi. Alors pourquoi il fait 40 pages, parce que c'est pas un essai, c'est pas une thèse, hein, c'est juste une réflexion autour de ces notions là et donc Laure Murat elle tente, et à mes yeux elle y parvient, d'interroger notre époque et les notions qui traversent le débat public en France en particulier, parce que le livre il s'adresse vraiment aux Français et aux Françaises, c'est plutôt ça l'idée. Comme elle le dit dans Philosophie Magazine, les Français, y compris certains universitaires, ne cherchent pas forcément à comprendre ce que les gender studies, les études postcoloniales ou les mouvements comme Black Lives Matter ont pu apporter. On les rejette comme si c'était le mal absolu. Et je propose donc une halte, une réflexion à travers une étude de cas, le déboulonnage des statuts. Voilà. Parce que c'est vraiment ce qui va être l'axe d'attaque et de compréhension du livre, c'est les fameux statuts qu'on déboulonne. Voilà. Alors, loin de nier les excès qui peuvent exister dans les deux extrêmes, hein, autour de ces pensées, alors je te parle bien de l'extrême droite d'un côté et je parle bien d'une partie de l'extrême gauche de l'autre, avec des excès qui peuvent exister, elle parvient à rappeler que ces excès, par leur côté totalement contre-productif, ils finissent toujours par s'annuler eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, bah, même les gens qui utilisent ces excès-là finissent par les abandonner parce que bah, finalement ça ne marche pas et ça n'est pas compris et ça n'est pas écouté. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Non sans entraîner d'ailleurs des vraies conséquences. Par exemple, c'est la différence qu'elle fait entre boycotter un artiste, un lieu, une nation, ce que vous voulez, et pratiquer un harcèlement systématique d'une personne sur les réseaux sociaux. Ça ne relève pas de la même logique, et en fait, elle ne le classe pas, comme certains peuvent le faire aujourd'hui, en disant « la cancel culture, c'est harceler les gens sur les réseaux sociaux ». En fait, non. C'est pas ça, en fait. Elle le dit, théoriquement, ce qu'on pourrait appeler cancel culture, et je vais le redéfinir d'ailleurs, parce que ce mot, je l'emploie juste parce qu'il est connu, mais il ne définit pas réellement ce que sont les choses, je le redis. En fait, c'est pas du tout ça. La notion de boycott existe, mais le boycott, ça existe depuis des siècles, hein. C'est-à-dire le fait de dire « je ne vais plus acheter telle marque parce qu'ils font travailler les Ouïghours », c'est un boycott, et c'est légitime, et c'est comme ça, et ça existe. C'est pas une arme nouvelle, simplement, aujourd'hui, elle se fait via les réseaux sociaux, donc elle a une grande visibilité. Mais elle dit que ça n'est pas du tout la même chose qu'encore une fois de boycotter et de harceler. C'est deux excès différents. Enfin, il y a un excès et un outil politique. L'autrice rappelle déjà que la cancel culture, ça n'existe pas en tant que telle, hein, ou plutôt qu'elle ne se définit pas comme cela pour celles et ceux qui s'en réclament. Parce que c'est ça qui est important, c'est aussi d'écouter ceux et celles qui s'en réclament. Alors, elle ne se réclame pas de la cancel culture. La définition dont se réclament les tenants de cette vision de l'histoire, parce qu'à titre personnel, moi, ça me parle énormément, hein, de revisiter l'histoire et de la regarder, c'est la... Alors, excusez mon anglais. Je vais essayer. Accountability culture ou culture de la responsabilité. En fait, c'est l'idée que quand vous regardez un fait historique, vous pouvez pas le regarder qu'avec les grandes victoires ou des choses comme ça. Il faut aussi regarder quelle est la responsabilité des uns et des autres. Qu'est-ce que ces victoires ont pu avoir comme impact sur les uns et sur les autres? Et bien, par exemple, la découverte des États-Unis, c'est pas Christophe Colomb, parce qu'on sait qu'elles étaient déjà les États-Unis, mais c'est la découverte pour les Occidentaux, c'est-à-dire pour les Européens. Là, c'est pour les Européens que c'est une découverte. Par contre, pour les Amérindiens qui habitaient déjà aux États-Unis, ben en fait, ce n'est pas une découverte où ils y habitaient. Donc, ils savaient que les États-Unis étaient là. Par contre, la conséquence sur les Amérindiens était énorme, vu que ça a été quand même un génocide. Mmh. Et donc, on ne peut pas enlever à Christophe Colomb la responsabilité, et à ceux qui l'ont suivi, d'avoir engendré, finalement, un génocide. Ce qui ne veut strictement pas dire que Christophe Colomb était génocidaire, mais ça veut dire qu'en fait, les idées qui l'ont poussé à aller jusqu'à là-bas contenaient en germe, quelque part, des idées qui ont pu entraîner derrière le génocide. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est donc pas l'idée de dire on arrête tout, mais on peut comprendre du coup les débats qu'il y a aux États-Unis sur le Columbus Day, qui est le jour férié donné, parce que Christophe Colomb a découvert les États-Unis. Sauf que ben non, parce que pour les Amérindiens dont certains habitent encore là-bas, ce serait plutôt la découverte, la commémoration d'un génocide. Donc effectivement, forcément, il y a des choses qui se heurtent. Et ça ne veut pas dire que il faut pas garder Christophe Colomb dans les livres d'histoire. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la même approche de l'histoire. Il faut prendre en compte toutes les approches de l'histoire pour pouvoir peut-être aplanir, changer, modifier. Et par exemple, pour le Columbus Day, il y a des gens qui proposent aujourd'hui d'appeler ça le jour de la découverte européenne des États-Unis. Voilà. Mm. Par exemple, pour dire qu'en fait, ça engendre ça. Et d'autres qui disent on pourrait rajouter le jour de la conquête par l'Europe des États-Unis. Ce qui fait que là, on rentre dans le plus juste. Et voilà, et c'est ces débats-là, en fait, qui existent. Et il y a une autre chose qu'on entend aussi, c'est le woke. Vous savez, alors ça, c'est le truc. Alors, surtout en France, on a le truc. Alors, woke, moi, pour moi, au départ, c'était un truc pour faire la cuisine. Mais en fait, ça existe. Mmh. Mais en fait, il faut voir une chose, c'est que woke aux États-Unis, ça se traduirait plus par vigilant que par éveillé. Mmh. C'est ce que c'est. En fait, on prend la première traduction, on dit ah, bah oui, mais oui, woke, c'est éveillé. Bah non, en fait, ce serait plutôt vigilant. C'est-à-dire faire attention à tout ce qui entoure les choses. Oui.
En plus, éveillé, ça sous-entend vraiment un truc presque d'illuminé, en fait, je trouve.
Oui, mais sauf que c'est une mauvaise traduction. Oui.
Et qu'à côté de ça, quand même, enfin, je peux peut-être que t'en parles après, mais enfin, il y a quand même des gens qui nient l'existence du mot woke, en fait.
Ah non, mais
Parmi ceux et celles qui défendent cette approche, etc. Et en fait, j'ai l'impression de dire, mais là encore, c'est ridicule, en fait. Parce
qu'il existe.
Il y a des choses qui existent et qui se revendiquent de ce truc-là. Donc, dire parce que l'extrême droite le critique, mais non, ça n'existe pas, ils ont tout inventé. Mais c'est idiot, en fait.
En fait, ce qu'ils ont inventé, l'extrême droite, clairement, c'est la cancel culture. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. C'est pour ça que je ne vais plus l'utiliser dans la suite. J'ai fait exprès de l'utiliser au départ pour ne plus l'utiliser après. Ça, c'est une invention vraiment très, très d'extrême droite. C'est vraiment une relecture, en fait, de ce que pouvait être. En réalité, ce qui existe, c'est la notion, en fait, d'avoir, en fait, un regard éveillé, mais pas au sens de la révélation, mais bien dans l'idée d'avoir une vision large de l'histoire et de ses tenants et aboutissants. Alors c'est très loin finalement des caricatures qui sont faites en France du wokisme, hein, qui vient en fait d'une très mauvaise transcription, parce que c'est difficile ce mot, mais aussi bien par les tenants de la réaction que par une partie des tenants du progressisme.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben oui, on peut ne pas être d'accord avec la grille de lecture, c'est pas pour autant qu'il faut caricaturer, et enfin voilà. Si la notion de woke existe, elle est clairement une façon en fait de poser les choses. Et le wokisme, lui, n'existe pas un seul instant. Il n'y a pas de wokisme comme il y a du communisme. Vous voyez, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Le woke, il ne va pas en isme, en fait. C'est juste une façon de poser les choses. Le woke, en fait, il pourrait se voir comme l'application à l'histoire d'une vision prenant en compte tous les aspects. Mmh. Classe, culture, racisme, sexisme, etc., etc., etc. L'inverse, en fait, du roman national, finalement. Mmh. Autre point, l'autrice rappelle que la définition la plus claire de ce qui est appelé à tort cancel culture, je vous dis bien là, cette fois que c'est à tort, serait finalement réparer les injustices flagrantes a posteriori. C'est-à-dire faire de l'histoire, tout simplement. Donc pourquoi craindre de regarder en face l'histoire finalement? Pourquoi cela semble tant nous obséder en France? Voilà, ne stresse pas. Avant tout, parce que nous sommes une nation qui s'est construite sur des falsifications totales de l'histoire. Au travers du roman national enseigné dans nos écoles et repris par la politique sans vraiment le critiquer. Allez savoir.
Bah, c'est surtout, alors après c'est peut-être moi qui me plante, mais je pense que c'est propre à tous les États, en fait.
Alors pas vraiment. Alors justement je pensais ça, mais en fait c'est très très propre à la France. C'est-à-dire que la France est vraiment un pays qui s'est créé sur une histoire fantasmée et écrite. Par exemple, les États... alors, il y a toujours une part de roman national.
Oui, c'est ça que je veux dire.
Mais par exemple, tu prends nos voisins, l'Espagne qui est fédérale, l'Italie qui est fédérale, l'Allemagne qui est fédérale. Il n'y a pas vraiment de roman national ou de héros nationaux entièrement. Alors, des fois, ils ont été créés à certains moments de l'histoire, évidemment. Mais ce n'est pas autant ancré que chez nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Okay, ouais.
Alors que nous, en France, par exemple, il suffit de dire, et je vais en parler juste après, Napoléon. Et d'un seul coup, waouh, Napoléon, machin. Vous voyez. Sauf qu'en fait, on n'a pas réinterrogé Napoléon, quelque part, vous voyez.
Donc, finalement, c'est plus exacerbé dans un État jacobin, centraliste,
clairement,
que dans... Finalement, peut-être que le fédéralisme, même dans un État, permet déjà une forme de confrontation, parce que localement, déjà, il y a des choses qui remontent, etc.
Ouais, et, okay, effectivement. Et c'est très, très propre à la France. Mmh. Vraiment, la France, c'est un pays qui s'est construit sur... depuis la Troisième République, sur un roman national totalement fou, voilà, et totalement faux d'ailleurs. Donc un exemple dont je disais qui m'est venu en lisant ça, c'est la figure centrale de Napoléon dans la France dite moderne. Mmh. Comment se fait-il qu'il soit toujours aussi difficile pour nous d'interroger clairement ce qu'était et ce qu'a fait Napoléon? Voilà. Le roman national en a fait le père de la nation moderne et bureaucratique qui nous sert de socle aujourd'hui. Mais quels en fut le prix? Parce que vous voyez, si on applique un petit peu un prisme attention, je pense que si quelqu'un d'extrême droite nous écoute, il va faire un infarctus. Un prisme un peu woke, j'ai fait exprès. Bah, par exemple, quel était l'impact pour les esclaves, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, qui étaient ramenées soit à des biens meubles, soit à des improductifs à éliminer? Parce que c'était ça Napoléon, hein. C'est-à-dire, les mouroirs à handicapés, c'est sous Napoléon par exemple. Les enfants n'existaient pas, c'était un bien meuble qu'on pouvait se transmettre et qu'on pouvait même quasiment vendre. Les femmes n'avaient aucun droit, si ce n'est que d'être un bien meuble du mari. Voilà. Doit-on encore enseigner que l'aspect positif de ce personnage, qui a été un massacreur et un dictateur sanguinaire, est-ce qu'on doit uniquement donner les aspects positifs en oubliant les énormes aspects négatifs qui sont finalement extrêmement ternissants pour ce qu'il était? Donc c'est une vraie interrogation. C'est ce genre de question en fait que couvre l'ouvrage de Laure Murat. En nous confrontant en fait que ce sont avant tout les États, les villes et finalement ceux qui tiennent le pouvoir qui sont ceux qui annulent le plus en réalité. C'est ça en fait qu'elle essaye de nous montrer. Et de façon la plus flagrante, elle nous oblige à nous pencher sur nous-mêmes, sur nos petites pertes de radicalité, de prise de conscience face à des fatalités. Je mets des guillemets, on ne peut pas faire autrement, sauf qu'en fait non, rien n'est fatalité. Elle rappelle souvent dans l'ouvrage que l'histoire n'est qu'une écriture.
Hein. Oui.
On peut revoir l'histoire, et heureusement on fait des découvertes, on améliore, on modifie,
oui, on enrichit,
on change,
on enrichit. On précise,
voilà. Quand on a des mouvements de déboulonnage de statues, c'est pas pour la statue en elle-même, mais bien pour l'histoire qui est derrière qui a ce mouvement. C'est ça qu'elle explique aussi.
Et qui est niée, en fait.
Oui, et on
en fait,
nie.
C'est ça, c'est que déjà tu dis, s'il y avait une statue qui était là, parce qu'elle était là, mais que au moins on disait, ouais, ben en fait ce personnage, bon, ok, il a peut-être pu avoir un rôle.
Ah, tout de suite on vous dit, ah non, c'est inadmissible.
Oui, c'est ça, mais que, oui, en fait, ça commencerait peut-être déjà par ça, quoi.
Et finalement, à réduire cela à un vandalisme, ça revient à dire que l'histoire ne s'interroge pas. Or, l'histoire, elle s'interroge, et heureusement, qu'il faudrait une sorte d'ordre immuable. Et encore une fois, l'autrice le dit elle-même, mettre une statue au musée n'est pas effacer de l'histoire un personnage, c'est juste mettre la statue au musée. Et l'histoire, elle ne se fait pas dans les statues, mais bien dans les livres d'histoire. Elle se fait dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on recherche et dans les controverses d'historiens. C'est là qu'elle se fait l'histoire, elle ne se fait pas dans les statues. Voyez. Donc quand on a, par exemple, un Emmanuel Macron qui dit « La France ne bougera aucune des statues qui existent », bah déjà, il refuse même d'interroger l'histoire. Parce qu'après tout, il n'y a plus de rue Pétain en France, hein, heureusement. Donc on a su à une époque se dire « Peut-être enlever le nom, là !» voilà. Donc au final, en une quarantaine de pages, et je le redis, Laure Murat rend palpable et très stimulante une réflexion large sur notre vision du monde, sur ce qui fait ce que nous sommes, et pourquoi nous devons sans doute collectivement repenser et penser les choses, tout simplement. Entre rappel que si les réseaux sociaux commerciaux existent, ils sont à appréhender plus qu'à rendre coupable de tout aussi, parce qu'en ce moment, on entend tout ça. Mais ça, c'est la faute aux réseaux sociaux. Ben non, en fait, c'est juste un outil, hein, le réseau social, faut arrêter. Bref, je vous invite vraiment à découvrir le livre et de lire l'excellent essai « Qui annule quoi ?» de Laure Murat aux éditions Seuil Libelle. Voilà.
Ok.
Bah oui, j'espère que je vous ai donné envie.
Mais oui, en plus, je le dis aux auditeurs, auditrices, il fait
40 pages sur un 2005.
Ouais, je vais te le chourer, je vais le lire, parce que ça a l'air de se lire assez rapidement.
Ouais, mais moi je le dis, en plus, c'est stimulant de s'interroger, de confronter, d'essayer de comprendre, de décortiquer, d'être hors de la caricature, parce que les milieux militants ont tendance à pousser à la caricature, et je fais partie des milieux militants, donc je vais pas vous dire le contraire, hein, je vais pas vous dire, moi je ne fais jamais de caricature. C'est pas vrai, on en fait tous quand on milite, donc voilà, et le problème c'est que la caricature c'est pas la pensée et en fait Laure Murat ce qu'elle essaye de faire c'est de la philosophie.
Oui c'est ça, c'est et le dire, slogan non voilà, plus n'est pas de la philo.
Sortir du slogan, sortir de l'anathème, sortir de l'énervement du moment, prendre un pas de côté pour se dire bon ok, on va lire tout ça un peu calmement et on va essayer de se poser pour voir un petit peu où se trouvent vraiment les problèmes. Et je le dis, c'est parce que j'y ai pensé en écrivant ça, elle fait l'exact inverse d'un Bernard de la Villardière sur M6, où il va aller chercher l'exemple extrême de chaque chose pour vous dire, vous voyez, ça existe. Bah oui, ça existe, mais si c'est 1% ou 0,1% ou 0,001% des gens qu'il a vu dans son reportage, ça n'a aucun intérêt de le mettre en avant du reportage pendant 20 minutes. Vous voyez, c'est le truc. Et en fait, c'est ça le truc, c'est la construction de comment on appréhende la société. Et encore une fois, il y a des excès, c'est un fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des excès que ça annule toute une pensée. Voilà. C'est ça en fait.
Après, moi je me demande, est-ce que ça concerne que Bernard de la Villardière, droite et l'extrême droite? Et est-ce qu'on n'a pas aussi ce genre d'excès, enfin de de soi, de promotion d'une infime minorité qui, est-ce qu'elle est finalement signifiante de quelque chose, à la gauche, etc.
Mon idée c'était surtout de pointer ça parce que c'est un petit peu par rapport à, aussi à ce qu'il y a eu avec le reportage sur Roubaix, où tout s'est un peu enflammé très très vite, tout ça. Alors c'était pas de la Viardière, c'était une autre émission de M6, mais en tout cas voilà, en fait le vrai problème c'est ça, c'est qu'on rentre dans l'anathème, on rentre dans parfois la malhonnêteté intellectuelle, mais de partout en fait, en réalité on voilà, alors que des fois il faudrait peut-être le penser autrement, mais pas le penser, ça veut pas dire qu'il faut le mettre de côté, hein, c'est pas tout ce que je dis, c'est le penser et le réfléchir autrement, c'est-à-dire se dire est-ce qu'on n'a pas d'autres réponses à apporter que un flot d'insultes sur Twitter ou que machin,
ou des menaces de mort,
ou des menaces de mort ou des choses comme ça, ou est-ce que finalement on n'a pas plutôt à apporter des autre chose que des slogans, mais peut-être plutôt de la pensée, est-ce que vous voyez ce que c'est, ça en fait l'idée, et je pense que c'est refaire du politique, c'est dans ce sens-là. Et ça, à mon avis, c'est aussi ce que cherchent beaucoup de gens qu'aujourd'hui on monte du doigt en disant ils ne veulent pas faire ça. Et je pense aussi que certains ont utilisé l'excès pour se faire entendre, mais ont été contre-productifs. Voilà.
Ah bah oui, oui.
Mais comme tout dans tous les mouvements, hein, je veux dire, c'est comme ça.
Mais oui, oui, ça force aussi à interroger nos propres pratiques, etc. Enfin, oui, on a pu déjà écrire des textes, etc. Des fois, quand ça fait deux pages, on dit oh là là, c'est long. Oui, enfin, des fois, il faut étaler un peu ta pensée. Ça ne veut pas dire que, enfin, ça veut pas dire qu'il faut une thèse à chaque chose. Mais en même temps, on peut pas réduire une pensée à un slogan non plus, fait, quoi.
Exactement.
Et effectivement, la philo, elle manque beaucoup. Et pourtant, j'en ai pas fait, mais je vois que ceux qui en ont fait, ils en abusent pas forcément. Et ça, c'est peut-être un problème, quoi. Enfin bon, on passe à la zic.
Allez, c'est parti.
Oh,
Et encore un nouveau titre dans la causerie sur Radio Canyon 102.2. C'était Thylacine avec le titre Polar.
C'est ça. Et au tout début, si vous avez bien écouté, c'est des bruits de pas dans la neige. Ouais. Enfin,
c'est un très beau Thylacine. Ouais.
Et bien, on passe aux brèves.
Oui, alors, ça commence donc les brèves le jeudi 3 mars à 19h à la librairie La Griffe. Alors, c'est rue Sébastien Griffe, se trouve 5, je crois.
Je crois que c'est 5.
C'est à l'occasion de la sortie du bouquin Révolutionnaire, récit pour une approche féministe de l'engagement. Donc, c'est la présentation et histoire de sa construction à plusieurs. Voilà, c'est un moment de récit et de lecture et de discussion pour questionner nos histoires et nos généalogies. Voilà, et ça a l'air très très intéressant.
Ok, et bien on passe au 5 mars, c'est-à-dire le samedi. C'est un rassemblement suite à la mort de Yacine à la prison de Villefranche. Alors Yacine Mebarkia est décédé le 3 janvier 2022 à l'âge de 30 ans à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Il était diabétique, incarcéré à la prison de Villefranche. Yacine s'est senti très mal en cellule pendant 3 jours et a demandé en vain son insuline. Et donc, le truc, c'est qu'effectivement, c'est un rassemblement pour dénoncer cette énième mort en prison, parce que
c'est une privation de soins.
Oui, et que c'est fréquent, en fait. C'est vraiment fréquent. Donc, le rassemblement, je vous l'ai dit, c'est samedi 5 mars à 14h. C'est devant la cour d'assises du Rhône, autrement dit, le palais de justice des 24 colonnes du côté du Vieux-Lyon.
Et dimanche 6 mars, si malheureusement Vladimir Poutine n'a pas retiré ses troupes, il y aura un rassemblement contre la guerre en Ukraine à 15h, place Bellecour. Voilà, en soutien aux Ukrainiennes et Ukrainiens.
C'est ça.
Voilà. Et alors, je le redis, c'est pas parce que vous soutenez les Ukrainiennes et les Ukrainiens que vous choisissez un camp. Non. C'est juste qu'à un moment donné, vous soutenez des gens qui subissent une guerre.
C'est voilà. C'est ça. Et on peut dénoncer Poutine,
l'OTAN, la France, tout le monde.
tout en soutenant les gens qui subissent la guerre et qui, ceux de l'autre côté aussi, subissent l'enfermement. Je parle des Russes, évidemment, qui manifestent très régulièrement contre la guerre, parce qu'il y a aussi en Russie des gens qui ne veulent pas de cette guerre et qui sont enfermés à minima pour 10-15 jours. Donc voilà, la solidarité elle est internationale. Il ne faut pas qu'on rentre dans leur jeu de division, etc. Mais pour autant, Poutine est une crevure comme beaucoup de chefs d'État. Et le dernier rendez-vous quand même qu'on va donner, c'est dimanche prochain, évidemment, le 6 mars à 22h.
La causerie.
Ouais, c'est ça, sur le 102.2 de Radio Canu. Eh bien, nous recevrons Sam Boy, qui viendra nous parler de sa formidable BD. Et voilà, on vous donne donc rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, on vous fait des bisous, on vous souhaite bon courage pour la semaine à venir.
Donne le dernier titre.
Si, mais là je balance et tout, comme ça tu donnes ton titre et puis on se casse, quoi.
Il prend toute la place.
Qui, moi ?
Oui, toi.
Eh ben, au revoir.
Non, mais moi, c'est terrible, mais des fois, quand il y a une guerre comme ça, quand il y a des moments comme ça, un peu de tension, c'est pas la première fois en plus que je le fais dans la causerie, j'aime bien passer un titre qui paraît complètement désuet, mais qui, moi, me parle, et c'est un titre de John Lennon et le Yoko Ono Plastic Band, et ça s'appelle « Give Peace a Chance », « Donne une chance à la paix ». Voilà.
C'est ça, faites l'amour, pas la guerre, c'est ce qu'on dit, non ?
Bah oui. C'est tellement meilleur l'amour.
Ah ouais, grave. Donc, bon courage à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bisous.
Des bisous.
Ciao.
make it.